Ça fait déjà quelques années. Ça passe tellement vite, le temps. Je ne me rappelle même plus la dernière fois où j'étais là, où j'ai apporté la parole. Pardon? Ah, il faut être très très proche, d'accord. Pourtant, j'ai une voix qui porte. Je peux parler plus fort. Ben, j'étais ancien dans l'église d'Altenkendorf, mais vu les années qui passent, hein, il y a des jeunes qui ont pris la relève, bien que je sois toujours actif pour le ministère du Seigneur. Je participe à plusieurs groupes de maison où on est très encouragé avec des personnes qui ne viennent pas dans notre église et qui se sont données au Seigneur, disons les femmes, mais pas les maris. Je suis marié, hein, ça fait, j'ai déjà des petits-enfants. Marié avec une femme qui vient de Suisse, qui s'appelle Marita, qui vient de la région de Thun. Ça fait plus de 40 ans qu'on est mariés ensemble, trois enfants et trois petits-enfants, et un quatrième qui est en train de... en cours. Et comme j'ai dit, je viens de l'église d'Altenkendorf. Comme vous le savez, je pense que cet après-midi, quand on regarde en arrière, ça fait 50 ans maintenant que l'église existe. Et cet après-midi, hein, on aura un culte pour les 50 années d'anniversaire avec les fondateurs Nicolas, Kessely, Alain Stamp, qui seront là, avec les autorités. Hein. Moi, je me suis donné au Seigneur en 79, alors je ne faisais pas partie tout au début, mais je pense que Marc, peut-être qu'il était déjà là, il y a 50 ans en arrière. 50 ans, un demi-siècle. C'est vrai que le temps passe tellement, tellement, tellement vite. Mais on se réjouit de voir que la main du Seigneur est toujours là, présente, et pour que une nouvelle génération qui aime le Seigneur puisse se lever et puisse continuer à porter le flambeau de l'Évangile. Parce que comme vous l'avez prié, chanté, notre pays de France a tellement, tellement besoin de l'Évangile. Quand je rencontre souvent les personnes, hein, on voit combien la misère est grande. Peut-être qu'ils ont de très très belles maisons, mais souvent dans la maison de leur cœur, la misère est très 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 grande. Et souvent on est démunis. Comment faire pour que crier au Seigneur pour qu'il puisse intervenir dans leur vie? Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous quelque chose de l'évangile de Jean. Je pense que vous connaissez sûrement très 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 bien ce texte. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8, les versets 1 à 11, où le Seigneur fait une rencontre avec une personne. Et j'aimerais le lire dans la parole vivante que j'ai. C'est le récit avec la femme adultère. Et il y a marqué quant à Jésus. Il se retira sur le mont des Oliviers, mais dès le matin, dès le point du jour, il revint dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Les interprètes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme surprise en train de tromper son mari. D'autres textes disent en flagrant délit d'adultère. Ils la font avancer dans la foule et la placent bien en vue au milieu du cercle devant Jésus. Maître, lui disent-ils, cette femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi ou dans la Torah, Moïse nous a ordonné de tuer à coups de pierre ces sortes de personnes. Quel est ton avis à toi là-dessus? Il lui pose cette question piège dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Pour toute réponse, Jésus se baisse et se met à écrire par terre avec son doigt. Mais il insiste et répète plusieurs fois leurs questions. Alors il se relève et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baisse de nouveau et continue à écrire par terre. Après avoir entendu ces paroles, il s'esquive, un à un, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui reste là, immobile, au milieu de la cour du temple. Alors Jésus relève la tête et se tournant vers elle, il lui demande, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ?»« Personne, Seigneur, lui répond-elle. » Alors Jésus lui dit, « Va, je ne te condamne pas non plus. Tu peux partir. À l'avenir, garde-toi de pécher. » Ou d'autres textes disent, « Va et ne pêche plus. » Ce texte, comme j'ai dit, il est très, 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 très connu. Mais si on prend le contexte de cet événement où les pharisiens amènent cette femme adultère devant lui, eh bien, le contexte de cet événement se passe dans le chapitre précédent, au chapitre 7, où il y a une fête qui est pratiquée par le peuple d'Israël, les fêtes de l'Éternel. La fête des tabernacles venait juste de se passer au chapitre 7. Et selon le livre du Lévitique, dans le calendrier religieux d'Israël, il y a surtout sept fêtes qui sont célébrées. Quatre qui se passent au printemps, mars, avril, et trois autres qui passent en automne, septembre, octobre. Et une qui se passe en automne, c'est justement la dernière, c'est la fête des tabernacles, ou la fête des huttes. Il y avait trois sur les sept qui étaient très, très, très importantes, où pratiquement tout le peuple devait y assister. Et ces trois fêtes, c'est la Pâque. La Pâque qui symbolisait, qui rappelait au peuple d'Israël la libération de l'Égypte, où le sang a été mis sur les linteaux. Ça le rappelait la délivrance par le sang de l'agneau. Et pour nous, nous savons ce que ça veut dire, pour nous, la Pâque. La deuxième, c'était Shavuot, ou pour nous, ça veut dire la Pentecôte. Et pour Israël, c'était le don de la Torah. Ils ont reçu la Torah, ils ont reçu les enseignements, les commandements de l'Éternel. Alors pour eux, Shavuot, c'était important, parce que c'était là où Moïse est monté sur la montagne et a reçu les commandements de l'Éternel. Et pour nous, Pentecôte signifie, nous avons reçu aussi la Torah, nous avons aussi reçu les commandements de l'Éternel par le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous et qui nous donne la capacité maintenant à vivre selon la volonté de Dieu. Et la troisième, la dernière, la plus importante aussi, c'était la fête des tabernacles. Et cela le rappelait aussi quoi ? Ces 40 années qu'il marchait dans le désert, vers Canaan, vers la terre promise. Et pendant ces 40 années, il se construisait des huttes, des tentes. Mais c'était surtout Dieu qui venait habiter au milieu du peuple pendant ces 40 années dans le désert, jusqu'à ce qu'ils entrent dans la terre où coule le lait et le miel qui leur a été promis. Et ce qui est merveilleux, c'est que la fête des tabernacles, c'est la fête qui sera, on peut dire, célébrée par le monde entier, le jour où Jésus reviendra physiquement sur la terre. Parce que Zacharie, un des derniers prophètes de l'Ancien Testament, a dit cela. Zacharie 14, verset 16, il a dit, « Alors tous ceux qui subsisteront de toutes les nations qui sont venus contre Jérusalem, monteront maintenant, chaque année, pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des huttes. » Alors ce dernier jour, Jésus s'exclame pendant la fête des tabernacles. Et cela voulait dire quelque chose pour le peuple juif. Si quelqu'un a soif, qui viennent à moi et qu'ils boivent. Il dit cela à propos de l'Esprit qui allait venir. Après sa mort et sa résurrection, l'Esprit allait venir, habiter dans le cœur de chaque croyant. Alors tabernacle, ça veut dire habiter. Tabernacle, ça veut dire demeurer. Demeurer au sein du peuple, demeurer au milieu du peuple, demeurer dans le cœur du peuple. Ça, c'est tabernacle. Et le dernier livre de l'Apocalypse, au renouvellement de toutes choses, lorsque descendra la Jérusalem céleste, qui nous conduira dans l'éternité, à la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, il est dit, voici le tabernacle de Dieu qui est avec les hommes. Alors c'est dans ce contexte-là que Jésus, il dit, c'est moi le vrai tabernacle. Et nous savons que dans le chapitre 7, il y a des contestations contre Jésus. Même ses propres frères lui ont dit, mais monte donc à Jérusalem, montre-toi, parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Et à ce moment-là, lorsqu'il dit ces choses, il y avait des gens qui disaient, mais c'est le Christ. Et d'autres étaient divisés en disant, non, ce n'est pas le Christ, c'est un imposteur, c'est un blasphémateur. Il y avait division au sein du peuple d'Israël. Les chefs des prêtres et les pharisiens, ils ont envoyé une garde pour l'arrêter. Alors nous voyons que ce n'était pas évident pour Jésus. Il y avait ceux qui étaient pour lui et ceux qui étaient contre lui. Et là, le texte nous dit au début qu'il s'est retiré. Et il a passé la nuit sur le mont des Oliviers. Notre sœur, elle a partagé que souvent il se mettait à l'écart. Pourquoi est-ce qu'il s'est mis à l'écart sur le mont des Oliviers, hein? Il a sûrement prié pour la foule, pour ceux qui s'opposaient à lui. Il a passé toute la nuit sur cette montagne. Et au point du jour, il est redescendu de cette montagne. Il est de nouveau allé au temple de Jérusalem. Il a continué son œuvre. Il s'est assis. Il s'est de nouveau mis à enseigner. Le peuple, quel courage! Un homme courageux. Un homme qui a eu besoin cette nuit de nouveau se fortifier avec son père. Et le matin, il retourne dans le temple, enseigner. Alors les scribes et les pharisiens lui amènent une femme, comme le texte le dit, surprise en flagrant délit d'adultère. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans ce passage? Où est l'homme? Où est l'homme? Je ne sais pas, normalement, quand on commet un adultère, on n'est jamais seul. Normalement, un adultère se commet quand on est à deux. Et je pense que cet homme, je ne sais pas, est-ce qu'il a pris la fuite? On ne veut pas spéculer là-dessus. Mais le Lévitique dit cela. Si un homme commet un adultère avec une femme, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme seront punis de mort. Alors le texte nous dit qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Prendre sur le fait, c'est ça la définition. Alors qu'il ou elle commet un acte blâmable. Et je me suis dit, est-ce que tu as déjà été pris en flagrant délit? Pas d'adultère, mais en flagrant délit. Moi, je me rappelle, il y a des choses qui nous restent imprégnées dans notre cerveau, même quand on a fait des choses. J'avais 10 ans. Et avec un copain, on est allé dans un verger, on est monté sur un cerisier. Ah, qu'est-ce qu'elles étaient bonnes, ces cerises! Et on en a mangé. Et tout à coup, on entend une voix. Un homme qui court, chenapant. C'était le propriétaire du verger. Et moi, avec mon ami, on est descendu, mais d'une vitesse grand V de cet arbre. On a couru, on courait plus vite, il était plus âgé que nous. Ni vu ni connu, rentré à la maison, rien dit à mon père. Et en plus, mon père était très connu dans le village parce qu'on avait un magasin de reliures à Orfelden. Et le soir, vers le crépuscule, ça sonne. Moi, j'ouvre la porte, il y a un monsieur qui est devant moi. Et puis ce monsieur dit, est-ce que ton papa est là? Je dis oui. Et je ne savais même pas que c'était le propriétaire. Mais le propriétaire connaissait mon père. Il a tout raconté à mon père. Vous savez, moi, j'ai fondu, hein, comme neige au soleil. Et lorsque il est reparti, mon père s'est tourné vers moi. Je crois que c'était Superman avec les flammes de feu. Je ne vous dis pas le mauvais quart d'heure que j'ai passé là. Flagrant délit, pris en flagrant délit. Ouais. Il y a dans la Bible un homme qui a été pris en flagrant délit d'adultère. C'était le roi David. Il se cache. Il couvre. À ce moment-là, il a perdu cette notion que Dieu connaît tout, que Dieu sait tout. Il n'y a rien de caché, nous dit la Bible, qui ne doit être révélé, ni de secret qui ne doit être connu. Une parole suffit. Le prophète Nathan. Prophète Nathan, pour que la conscience de David soit réveillée. Il y a quatre mots, je me suis dit, peut-être plus, pour s'auto-justifier. Je parle mes combats à moi. Le premier, c'est le déni. Alors qu'on sait déni, non. Ça me fait penser à Dieu qui dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?»« Ben, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Ce qui est terrible, c'est parce qu'il est resté dans cette attitude de déni, ou bien on plaide coupable, ou on se retire, et la haine va en augmentant. La Bible dit que Caïn, après cela, sortit de la présence de l'Éternel, parce qu'il est resté dans son déni. Le deuxième, pour s'auto-justifier, c'est vrai, ça se pratique. Je me compare aux autres. Oh, l'autre, ce qu'il fait est beaucoup, beaucoup plus grave. Que on minimise alors. Troisième, c'est l'accusation. C'est la faute des circonstances. C'est la faute de mes parents. C'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Oh, ça nous ramène au jardin d'Éden. Ah, tout ce que Adam et Ève m'ont mis dans mon cœur, hein. Qui vient de la chute. Et puis, ce qui est le plus grave, c'est que le mal, il devient bien, et le bien, il devient mal. Et nous vivons aujourd'hui dans cette société où le mal, il devient bien, et le bien, il devient mal. Je me dis ça, c'est le retournement des consciences. Et Satan travaille à cela. Oh, à long terme, ce qu'on, à l'époque, on disait était mal, aujourd'hui, on trouve ça bien. Et ce qui est bien est devenu mal. Ce n'est pas venu d'un jour, mais ça, Satan travaille à long terme. Il travaille dans la société, il travaille aussi en France, dans ce but-là, pour le retournement des consciences. Malheur à ceux qui appellent le mal bien, dit Ésaïe, et le bien mal. Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Quand on pense à l'ouverture des Jeux Olympiques, combien on change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, et combien on est en train de formater la jeunesse pour leur montrer ce qui est bien. Mais que pense Dieu, ces choses? Qui change l'amertume en douceur, et la douceur en amertume. Et Daniel, quand il était en captivité à Babylone, il a dit, « Ah, l'Éternel révèle des choses profondes des choses secrètes. Il sait ce qui se tapit dans les ténèbres, et la lumière demeure en lui. Moi, je dis quelle grâce. Je n'ai pas besoin de dénier. Je peux tout apporter au Seigneur, tout, puisqu'il sait toutes choses. La deuxième, c'était, quand j'ai lu ce texte, c'est « Ils ont pris cette femme, les pharisiens et les sadducéens, ils la traînèrent. » Je ne sais pas, mais c'est terrible. Ils la traînèrent comme un moins que rien. Ils la traînèrent, ils la jettent au milieu. Ils la jettent au milieu pour que tout le monde la voie. Ils la jettent au milieu de la foule. L'effet de meute. Tous contre elle, tous, isolés, au milieu, dans un but, la détruire. Il la place au milieu du groupe. Et je me suis dit, quels sont les émeutiers aujourd'hui? L'effet de meute aujourd'hui? Je dis une chose, les médias, effet de meute, pour nous aligner dans une pensée unique. Et si tu ne marches pas là, tôt ou tard, te cibleront. Je parle aux jeunes. Chez nous, ce n'était pas en côté, mais là, le harcèlement, toute chose. Le harcèlement à travers les réseaux sociaux, avec un clic, avec les mots. Tuer avec les mots. Combien ? Dans notre groupe, il y a une sœur qui a partagé d'une amie qui travaille, où son fils est tellement harcelé qu'il est prêt à se suicider. Effet de meute, tellement facile de se cacher, de détruire l'autre. C'est aujourd'hui. La langue, dit Jacques, personne ne peut la dompter. C'est un membre, peut-être petit, instable et malfaisant, plein d'un poison mortel. Et comme j'ai dit, les réseaux sociaux, un clic, une rumeur, même pas fondée, et puis ça prend une ampleur. L'effet de meute. Et aussi je dis l'intégrisme, que ce soit religieux, politique, culturel. L'intégrisme, aligner tous dans une pensée unique, l'effet de meute. Et pour là aussi, cette femme, c'était l'effet de meute. Tout le monde était là en train de vouloir la détruire. Et ceux qui venaient juste en passant, ils ne savaient rien, qui s'arrêtaient, eh bien c'était embobiné. Bah, regardez-la. À part Jésus. Alors je me suis aussi dit, quand j'ai lu ce texte, il y a 5 principes du péché. Quand Jésus dit aux pharisiens, aux sadduciens, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, eh bien qui jette la première pierre. Jésus ne l'a pas dit officiellement, il voulait dire aussi, mais vous êtes tous des pécheurs. Tous les hommes sont pécheurs, tous. Et par après, quand ils disent cela, ils sont troublés. Pourquoi est-ce qu'ils sont troublés? Ils le savent bien, parce que Dieu a mis quelque chose dans le cœur de chaque être humain, c'est la conscience. Après la chute, Adam et Ève, constamment, le Seigneur venait le soir dans le jardin et il communiquait avec eux. Une intimité, une proximité avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais, ils le savaient. Et le soir, lorsque le Seigneur vient, ils se cachent. Ils ne peuvent pas se cacher, mais ils se cachent. Et elle a dit, mais pourquoi vous cachez-vous? J'ai eu peur. Pourquoi? La conscience leur fait comprendre qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Ou la relation est interrompu. Paul y dit dans l'Épître aux Romains que ceux qui ont la loi, les Juifs, seront jugés par la loi. Mais ceux qui n'ont pas la loi, mais leur conscience leur montre parfois ce qu'il faut faire de bien et de mal, parce que la conscience est là, eh bien, seront jugés différemment, mais seront jugés. Mais en tous les cas, cela nous montre que Dieu nous jugera selon la lumière que nous avons reçue. Le péché laisse toujours un héritage de culpabilité. Certains appellent cela la tâche du péché. Mais en tous les cas, la conscience est la première chose que Dieu a mise dans le cœur de l'homme pour qu'il se tourne vers le Sauveur. Et troisièmement, je me suis aussi dit, ceux qui partent les premiers, ce n'est pas les jeunes, c'est les personnes âgées et les moins jeunes. Je me dis, mais pourquoi est-ce que ce sont les personnes âgées qui partent en premier? On a vécu tant de choses, connaissons davantage des choses de la vie. Nous savons mieux, peut-être que les jeunes, de quoi nous sommes faits. Et c'est les premiers qui partent. Les plus vieux en premier. Et par après, lorsque le Seigneur dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, personne n'a pu le faire et personne ne l'a fait, parce qu'aucun pécheur n'a le droit de condamner un autre pécheur. Qui suis-je, moi, pour condamner? Puisque moi-même, je suis condamnable au beau point. Je ne peux qu'apporter la grâce et le pardon que le Seigneur m'a donné. Je racontais une histoire, c'était un conducteur de voiture, hein. Il se fait nettoyer le pare-brise dans une station-service. Et lorsque le pompiste a fini de lui nettoyer les vitres, l'homme, il est mécontent. Il dit au pompiste, ce n'est pas du bon boulot ce que vous venez de faire là. Refaites mon pare-brise, il est aussi sale qu'avant. Hein, le pompiste, il est vexé. Mais il s'exécute. Et l'homme le surveille. Et frustré, il lui dit, « Cette vitre n'a pas changé d'un point. » Mais sa femme qui est à côté, elle s'impatiente. Elle ouvre la portière. Il va du côté de son mari et lui enlève les lunettes. Elle lui nettoie les lunettes et elle lui rend les lunettes. Oh, surprise, ah ben, le pare-brise, il est comme neuf. Alors je me suis dit, d'un point de vue spirituel, nos lunettes déterminent parfois ce que nous voyons et comment nous le voyons. Si je regarde à travers les lunettes de la jalousie, de l'envie, de l'égoïsme, de l'intransigeance, alors je manque de compassion et je manque de grâce. Tout comme vous et moi, nous devons nettoyer nos lunettes, il faut avant purifier notre cœur et notre esprit. Aucun n'a le droit de condamner un autre. Nous devons les voir au travers les yeux du Christ. Et en fin de compte, qu'est-ce qui condamne l'homme? C'est la loi de Dieu qui condamne. C'est la loi de Dieu qui révèle le péché, comme le dit l'apôtre Paul. Et la loi de Dieu ne condamne pas seulement les péchés grossiers qu'on voit, qui font honte parfois à la généralité des hommes. Mais il châtie aussi au même degré. Non, pas seulement une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, mais la convoitise et d'autres péchés à lesquels nous devons nous lutter. Nous avons parfois du mal à le dire, que nous semblent peut-être parfois peu graves. et la loi et ne nous condamne pas pour nous détruire, il nous condamne pour nous amener à celui qui nous libère de la loi qui nous condamne et qui est le Christ sur la croix. Alors, je trouve que les pharisiens et les sadduciens qui étaient remplis de jalousie, ils ont fait une terrible, terrible erreur. Ils n'auraient jamais, jamais, jamais dû amener cette flamme, cette femme en flagrant délit à Jésus. Ils amènent cette femme à Jésus en lui disant, « Alors toi, que dis-tu toi ?» Ben justement, l'amener à Jésus, c'était l'amener au Sauveur. Alors vous savez, ça c'est l'ironie du Seigneur. Parfois, il utilise des personnes qui ne veulent rien savoir du Seigneur. Et après, il fait une œuvre merveilleuse. J'ai lu dernièrement dans Porte Ouverte de Strasbourg, parmi l'Église persécutée, qu'il y a un merveilleux réveil en Iran. En Iran, il y a des hommes et des femmes qui se tournent vers le Seigneur. Et les mollahs, le gouvernement islamique en Iran est tellement contre les chrétiens, les persécute. Et bien souvent, à travers leur intransigeance, Dieu utilise pour dégoûter les gens, les Iraniens, et ils viennent au Seigneur. Dieu est tellement grand. Souvent, nous voulons le mettre dans une boîte en disant « tu dois agir comme ci, comme ça ». Seigneur est au-dessus de ces choses. Il peut même utiliser des incroyants pour amener après des gens à la foi. Et là, les pharisiens, les sadduciens, ils auraient dû faire tout, mais jamais l'amener à Jésus. Et là, ils trouvent le salut. Et là, ils trouvent la libération. Ils ne le savaient pas. Hein? Amener à Jésus. Et ce qui est merveilleux, ce qui m'a touché, c'est qu'il y a marqué, quand ils viennent vers Jésus, et toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il va faire? Jésus n'a pas répondu un mot. Jésus s'est baissé. Il s'est baissé. C'est vrai, il a écrit. On a tellement spéculé. Qu'est-ce qu'il a écrit? Un jour, vous pourrez le demander. C'est pas avec son doigt, il a écrit. Mais il s'est baissé. Et quand il s'est baissé, ils sont revenus à la charge en disant, « Mais toi, que dis-tu ?» Et il s'est de nouveau baissé. D'abord, il leur a dit, que quiconque n'a jamais péché, et après il y a marqué, Jésus s'est de nouveau baissé. Ça nous montre l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Pour moi, Jésus s'est baissé, il s'est mis au niveau de cette femme. Cette femme était tellement là, et n'avait peut-être même pas le courage de lever les regards, tellement elle était accusée de partout. Jésus s'est mis au niveau de cette femme. Il s'est baissé. La parole a été faite chair. Il est habité parmi nous. Jésus s'est humilié en devenant un simple homme pour nous amener au Père. Jésus s'est baissé au niveau de cette femme. Il s'est mis à son niveau. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est merveilleux, par après, cette femme était entièrement restaurée, libérée de sa culpabilité, purifiée, lavée. Moi aussi, je ne te condamne pas. Le seul qui avait le droit de la condamner, ben c'est lui. C'est lui. Il dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Va, va et ne pêche plus. Comment le Seigneur peut lui dire maintenant, va et ne pêche plus? Le Seigneur, c'était la semaine sainte, c'était la dernière semaine de Jésus, quand il dit à cette femme, va. Il pouvait dire, va. Parce que moi, d'ici quelques jours, je vais aller sur le bois du calvaire et je vais prendre sur moi ton péché en flagrant délit d'adultère. Le mari, il a raté le coche. Enfin, là, il n'était pas là. Mais à cette femme, va et ne pêche plus. En allant à la croix, Jésus allait prendre sur lui son péché. La grâce et la vérité sont venus par Jésus, qui pardonne gratuitement le plus coupable. Va et ne pêche plus. La grâce. Moi, j'ai oublié de prendre avec moi, mais si j'ai 20 euros, disons 2 billets de 20 euros, le premier vient juste d'être imprimé. Il est encore tout neuf. Il n'a pas encore passé entre les mains de tellement de gens. Il est propre. Il est lisse. Il n'a pas circulé encore. Quelle est sa valeur ? 20 euros. Maintenant, j'ai une autre de 20 euros. Mais qui est tellement déjà utilisée, tout fripé, peut-être même un peu déjà déchiré. Peut-être même je l'avais, comme les jeunes, mis dans le pantalon. Il a passé le pantalon avec le billet de 20 euros dans la machine à laver. Il est tout fripé. La valeur, 20 euros, toujours 20 euros. Malgré son état d'usure, il vaut toujours 20 euros. Quelle que soit notre apparence, nous avons toujours la même valeur aux yeux de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu voit encore en nous cette image. Que je sois 20 euros beau ou fripé, j'ai toujours la même valeur aux yeux de Dieu. Et il nous porte le même amour. Va et ne pêche plus. Je me rappelle toujours encore quand ma maman faisait des gâteaux. Elle n'est plus là. Mais je me rappelle toujours à la maison quand elle faisait des gâteaux. Vous savez, il y a encore les balances qu'on avait à l'époque avec les deux plateaux. Alors d'un côté, elle mettait les ingrédients pour le gâteau. D'un autre côté, il y avait des petits pois avec 1 gramme, 5 grammes, 10 grammes, 50, 100, 200 grammes. Alors elle mettait les grammes dessus et les ingrédients pour le gâteau sur l'autre. Et au milieu, il y avait une aiguille. Si ça tendait d'un côté ou d'un autre, le gâteau était raté. Mais lorsqu'il y avait l'aiguille bien au milieu, alors le gâteau était réussi. Moi, je trouve que le Seigneur, il dit « Va et ne pêche plus ». Dans le mot « va », il y a le pardon. Il ne pêche plus. Il y a la pratique. Et le Seigneur nous donne la force de vivre par le Saint-Esprit une vie de sanctification. Il sait qu'on n'arrive pas par nous-mêmes. Lorsqu'il dit « va et ne pêche plus », il y a d'un côté le pardon et la justice de Dieu. Jésus est mort à la croix. C'est le pardon, mais ça nous montre aussi la justice de Dieu vis-à-vis du péché. Et l'aiguille est équilibrée au milieu. Va, il ne pêche plus. Et c'est exactement ce que Paul, il dit, je le dis aussi souvent à la jeunesse d'aujourd'hui, souvent la grâce de Dieu, elle est parfois mal comprise, la grâce et le pardon, et puis rien ne change. La grâce de Dieu, dit Paul à Timothée, qui est la source de salut pour tous les êtres humains, elle a été manifestée, c'est vrai, par Jésus à la croix. Mais elle nous enseigne cette grâce. Et c'est ça que le Seigneur dit à cette femme, « Va, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. » Elle nous enseigne cette grâce maintenant à renoncer à l'impiété. Il disait à cette femme, « Maintenant, je t'ai libérée, mais maintenant, vis différemment. Vis selon la gloire de Dieu. Va. » Cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et nous enseigne à renoncer aux désirs du monde et à vivre maintenant dans le siècle présent d'une manière sensée, d'une manière juste, d'une manière pieuse. Alors je me cite parfois, bon nombre de chrétiens connaissent la grâce de Dieu qui affranchit l'homme de ses péchés. Et c'est vrai, ça nous affranchit notre péché. Cependant, après la conversion, Nous devons en faire l'expérience libératrice. Et ça, le Saint-Esprit est venu pour vivre en nouveauté de vie. Et c'est pour cela que Paul, il a dû dire aux Romains, que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? Certes, non. Alors, ne livrons pas nos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnons-nous à Dieu, comme des vivants qui sont revenus de la mort, et vivons pour la justice et la sainteté de Dieu. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit que Jésus a promis en disant « Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous pour demeurer en vous, pour demeurer et pour marcher avec vous. » J'aimerais tout de même vous raconter, encore en terminant, cette histoire. C'est une histoire, je ne sais même pas si elle est vraie, mais c'est l'histoire d'une dame qui vivait dans le sud des États-Unis, et elle entretenait une profonde, profonde amitié avec le petit ami qu'elle avait depuis son enfance. Et elle tomba amoureuse de lui, et ils ont fini par se marier l'un l'autre. C'est vrai, leur vie conjugale n'était pas parfaite, mais elle était pleinement satisfaisante. Fidèles l'un à l'autre, ils connaissaient la joie de vivre ensemble. Mais après des années de vie commune, un drame, son mari lui fut soudainement enlevé par une crise cardiaque. Mais elle était incapable de se séparer de lui, de cet amour de jeunesse déjà. Alors elle a décidé de le faire embaumer et de l'asseoir dans une chaise, de le mettre sous verre et de le placer tout près de la porte d'entrée à l'intérieur de leur grande ferme où ils habitaient. Et chaque fois qu'elle franchissait le seuil de la porte, elle lui souriait et disait « Bonjour Jean, comment vas-tu ?» Puis elle montait les escaliers. Les mois passèrent, il était assis là, jour après jour, et elle reconnaissait sa présence par un sourire et un salut amical. Mais un beau jour, elle a décidé d'entreprendre un voyage en Europe. Et pendant ce voyage, elle a fait la connaissance d'un Américain qui était aussi en voyage en Europe, qui était distingué et très gentil avec elle. Ce fut le coup de foudre. Et après une romance éclair, ils se marièrent ensemble en Europe, et restèrent un certain temps et passèrent leur lune de miel ensemble à voyager à travers l'Europe. Finalement, elle n'a jamais soufflé mot de son ancien mari qui était embaumé à la ferme aux États-Unis. Mais finalement, ils revinrent de leur voyage de noces en Europe. Et cet homme se disait en lui-même, le moment, il est venu maintenant, nous allons entrer dans cette ferme aux États-Unis, de soulever mon épouse pour franchir le seuil de la porte et de la porter jusqu'à l'intérieur de la maison. Cet endroit merveilleux et où nous vivrons ensemble pour toujours. Alors il la souleva, il poussa la porte avec la hanche et il entra. Il laissa presque tomber sa femme sur le plancher parce qu'il a dit « Mais qui est-ce ? » Alors elle a dit « C'est Jean, c'est mon vieil homme. » Mais il fait partie de l'histoire. Mais c'est vrai, il est mort. Alors le nouvel amant, le nouveau mari, le nouvel époux, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a creusé immédiatement un grand trou dans la terre. Il a enterré l'ancien mari dans sa caisse en verre. C'est peut-être un peu lugubre, mais je me dis, c'est exactement ce que Christ a fait. Nous servons plus notre ancien maître. Nous servons un nouveau maître. Il a dit à cette femme adultère, va, et ne pêche plus. tu as changé de maître. Et ce nouveau maître, il nous porte pour franchir le seuil de la porte, qui nous éveille à vivre une vie nouvelle, un amour nouveau, à une relation nouvelle et à un avenir entièrement différent. Alors je termine en disant cela. Ne risquons pas de banaliser l'Évangile, de minimiser ce que Dieu peut faire pour nous et ce que Dieu peut faire maintenant en nous. Alors, devenir chrétien, ce n'est pas juste tourner une nouvelle page et faire quelques ajustements superficiels. Non, c'est un événement radical. Va, ne pêche plus. Va, change de vie. Va, je te donne la possibilité, parce que j'habite en toi, de vivre une vie entièrement nouvelle, de vivre des choses d'une dimension que tu n'as jamais, jamais connue. Tu es mort à ton ancienne vie. Tu es mort à ton fichu égoïsme. Et le Seigneur t'a ressuscité pour vivre une vie nouvelle, entièrement centrée et demeurée en lui. Alors va, va et ne pêche plus. Nous voulons prier. Te bénissons, Père, pour la richesse de ta parole. Te bénissons, Père, pour chaque mot qui a un poids, une valeur. Ta parole est vivante. Ta parole est tranchante. Ta parole est efficace. Pour mon pas, je ne peux pas. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes, mais c'est toi qui nous changes. Et nous avons tout ce pèlerinage terrestre où tu continues, Seigneur, à nous transformer, parce que tu as un but pour chacune de nos vies qui dépasse notre entendement, qui dépasse notre imagination. Et nous te bénissons parce que, comme tu as dit à cette femme adultère, va et ne pêche plus, va et change de vie. Tu le dis à chacun d'entre nous, non pas dans le but pour nous accuser, pour nous détruire, mais pour nous restaurer, pour nous renouveler, pour nous transformer, pour nous changer. Parce que tu as un but ultime, tu as dit que l'œuvre que tu as commencée en chacune de nos vies, tu la rendras parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes fiancés à toi, mais un jour, le mariage aura lieu, lorsque tu reviendras et que nous aurons des corps nouveaux, glorifiés, ressuscités. Et tout cela, tu le fais parce que tu nous aimes. Et nous te bénissons pour cette grâce insondable de savoir, Père, que nous sommes dans de bonnes mains. Oui, Père, nous voulons, Seigneur, aussi tendre tous nos efforts pour être transformés et aussi tendre tous nos efforts pour vouloir être transformés, pour vouloir marcher en nouveauté de vie, afin que nos vies soient une bonne odeur qui te glorifie. Au nom de Jésus. Amen.